La pause philo.
La pause philo.
Un temps pour l'essentiel.
Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de la pause philo. Un nouveau numéro, un voyage pour nous ramener à l'essentiel. Et ce voyage aujourd'hui, c'est avec Friedrich Nietzsche que nous le faisons, ce philosophe allemand du 19e siècle. Dans cette série spéciale, La mère et le philosophe, nous abordons les grands philosophes d'hier et d'aujourd'hui à travers la relation qu'ils entretenaient avec leur mère. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Jean-Louis Siani. Bonjour.
Bonjour Élodie.
Jean-Louis Siani, vous êtes vous-même philosophe et vous avez consacré l'un de vos ouvrages, La mère et le philosophe, aux éditions Le Bord de l'eau, à cette relation mère-enfant et l'impact sur la construction de la pensée de ces philosophes. Nietzsche est le philosophe de la volonté de puissance et de l'éternel retour. Que sait-on de cette Madame Nietzsche et des relations avec son fils ?
Alors, ça va être là aussi assez particulier, assez étrange, puisque Francisca, la mère du philosophe, était très croyante et dotée d'une santé robuste, alors que bon, son fils, c'est quand même le philosophe qui a annoncé la mort de Dieu et qui a été malade toute sa vie. Alors, quand elle épouse le pasteur Ludwig Nietzsche, Carl Ludwig Nietzsche, de 12 ans son aîné, elle n'a pas 18 ans, c'est une fille de pasteur de campagne, une sauvageonne qui aime la nature, qui a le goût de l'exercice physique, qui est modeste, obéissante et surtout d'une foi inébranlable. C'est une femme qui est formée pour surmonter toutes les épreuves de la vie et elle va en connaître.
C'est-à-dire hein.
Eh bien, d'abord, un an après son mariage et au terme d'une grossesse normale, en octobre 1844, elle accouche d'un garçon en bonne santé, Frédéric Wilhelm, donc hein, Nietzsche. Ensuite, elle a une fille Elisabeth et un second garçon, mais bon, il y a une relation fusionnelle très forte, à tel point que ben, le philosophe Nietzsche, il a un petit retard de parole et le médecin l'impute précisément à Madame Nietzsche, qui est trop attentive au moindre geste de son fils et qui le dispense de s'exprimer finalement à l'aide des mots. Hein. Il se rattrapera.
Oui, il va se rattraper bien plus tard.
Donc il y a une sorte d'attachement instinctif, d'après les biographes, entre la mère et le fils. Hein.
Alors, un fort attachement entre la mère et le fils, on l'a compris, mais Jean-Louis Siani, jusque-là, tout va bien dans cette famille Nietzsche.
Oui, ça commence, disons, par cette espèce de bonheur d'enfance, mais ça ne dure pas puisque le père, le pasteur Nietzsche, décède donc en 1849, donc quand Nietzsche a 5 ans. Alors on ne sait pas si la tumeur qu'on a décelée est due à une chute d'escalier. En tout cas, elle a entraîné une paralysie nerveuse, une perte progressive de la vue, et il est probable que Nietzsche ait assisté à la dégradation physique de son père qui est pris de convulsions, le regard dans le vide, et que ça a dû être une expérience terrible pour un enfant.
Un souvenir traumatisant.
Voilà, dans une période qu'on appelle nous maintenant la période de l'Édipe, hein, mm-hmm. de l'identification et du combat avec le père symbolique. Et donc, mais quelques mois après, le malheur s'abat une seconde fois, puisque c'est le petit frère, Joseph, qui est emporté par une apoplexie.
Et alors donc, là, donc ça fait beaucoup de morts en peu de temps.
Voilà, pour un enfant.
Mort proche en plus.
Mais Madame Nietzsche intervient, et avec son énergie inépuisable, énergie physique et mentale, elle va consacrer toute sa vie au bien-être des enfants qui lui restent, pas une plainte, pas d'amertume. Elle assume toutes les charges du quotidien, de l'éducation, avec chaleur et conviction. Quand la fatigue la gagne, elle fait des aspersions d'eau, elle fait des promenades au grand air, elle inculque à Nietzsche les vertus du sport, la natation, la luge, le patinage. Voilà, et bien entendu, cet instinct maternel ira jusqu'au sacrifice d'une vie, puisque alors qu'elle est encore jeune, jolie, que c'est une belle femme, eh bien, elle repoussera tous les prétendants, elle se consacrera à sa famille.
D'accord, elle se consacre qu'à sa famille et à ses enfants. Est-ce que, justement, Jean-Louis Siani, ça va durer toute sa vie ?
Oui, jusqu'à la fin, puisque, à un moment donné, bon, comme on le sait, Nietzsche va basculer il devient fou, il bascule dans la psychose, hein, à 55 ans. Elle n'hésite pas une seconde, elle va le tirer d'un hôpital où l'a placé un ami, hein, puisque Nietzsche a basculé dans la folie à Turin, Il a où son errance l'a mené, hein, puisqu'il était rare, il erre de comme ça, notamment en Italie, dans les dernières années de sa vie, et il voit un cocher à Turin qui frappe son cheval, et donc là, on ne sait pas pourquoi, il se jette au cou du cheval, et à partir de là, il ne reviendra jamais.
Il bascule.
Il ne reviendra jamais dans un état normal.
Normal.
Le fils est foudroyé, la mère immédiatement s'occupe de lui et elle dit même. Ma vie n'est pas facile, mais je remercie mon Dieu du fond du cœur qu'il me soit donné de pouvoir m'occuper de lui. Personne ne peut comprendre un enfant que sa mère.
Alors Jean-Louis Siani, c'est une mère protectrice, hein, vous la décrivez comme telle. Peut-on la qualifier de possessive ?
Oui, parce qu'en même temps, avant cet épisode où Nietzsche donc, bascule dans la folie, elle se mêle de tout. Hein. Elle se mêle des rares amours ou des rares relations qu'il entretient. Elle critique ce qu'il écrit. Bien entendu, Dieu est mort, ça ne pouvait pas passer comme ça dans une famille de pasteurs.
Hein. Ouais.
Mais bon, cette espèce de possession, d'emprise de la mère sur le fils, ben, ça semble générer une sorte de carence, d'immaturité affective que j'identifie moi dans les textes de.
Elle est forte pour lui en fait. Lui finalement, il
oui,
part dans cette errance.
Voilà, lui, il va rester en fait une sorte d'inachevé affectif, hein, Nietzsche.
Il n'a pas fini de grandir, est-ce qu'on peut dire ça ?
Bah, c'est,
affectivement parlant.
Voilà. Il y a quelque chose d'une immaturité chez Nietzsche. Mais en revanche, ce qui revient aussi, c'est l'attachement au père. Nietzsche, par exemple, adore la musique. Hein, donc, comme tous les auditeurs, je suppose, de Radio Aviva. Et il dit ces deux belles phrases, il dit « Tout me semble mort là où je n'entends pas de musique ». Vous voyez, cette phrase, il faut la mettre en relation avec son père, qui l'écoutait jouer du piano. Hein. Et puis cette belle phrase qui est un peu maintenant remise à tous les goûts, c'est « Sans la musique, la vie serait une erreur hein. ». Voilà, donc ça c'est le côté, je dirais, paternel. Mais d'un autre côté, il se dresse souvent contre sa mère, il rejette la filiation maternelle, il la considère mauvaise pour lui. Hein. Il sent qu'il y a quelque chose qui...
Il n'arrive pas à couper le cordon ombilical finalement.
Sans doute, mais en même temps, il n'y arrive pas, mais elle entretient ce cordon symbolique. Hein. Et dans les années donc, qui précèdent son effondrement, il passe d'un meublé italien à un autre, il prend ses repas sur une nappe blanche qu'il a réclamée à sa mère, il signe ses lettres « Ta vieille créature, ton vieil animal », vous voyez, c'est assez répressif
quand même, hein,
et assez fort. Quoi. Donc une sorte d'attachement. Et de déliaison en même temps, c'est toute l'ambivalence de Nietzsche.
Alors, selon vous, Jean-Louis Siani, la philosophie de Nietzsche porte les traces de cette enfance traumatisante et de cette relation avec sa mère ?
Oui, moi, il me semble, on ne va pas faire, bien entendu, de la psychanalyse sauvage, mais Nietzsche nous a invité lui-même à tenir compte des données biographiques. Hein. Il dit, on a la philosophie de sa propre personne. Et je crois qu'il y a dans la philosophie de Nietzsche un climat, une humeur, une Stimmung, comme disent les Allemands,
en allemand, oui.
Qui portent les traces des blessures et des terreurs de l'enfance. C'est quand même une pensée qui est hantée par la polémique, le conflit, le chaos. Elle cherche toujours un adversaire. Une menace plane toujours autour d'elle. Jeune, il a dit, il a eu l'occasion de l'écrire à sa mère, il dit « J'écris mes pensées, je les observe et j'ai l'impression que des factions barbares bourdonnent et fermentent. » Que l'air frémit et se déchire comme si une pensée ou un aigle s'était levé vers le soleil. Donc vous voyez, la pensée, c'est quelque chose, c'est un véritable champ de bataille. Il y a toujours des oppositions chez Nietzsche entre notre esprit dionysien venu des profondeurs et puis le côté solaire apollinien. Il y a une opposition entre les faibles et les forts, la décadence, l'origine, la maladie et la santé. Donc on dirait que penser, c'est toujours articuler des objets qui sont irréconciliables.
Alors pouvez-vous justement nous éclairer sur les concepts ou les métaphores les plus célèbres de Nietzsche, pardon. Ben,
je rappellerai le surhomme, hein, bien sûr, c'est un concept à manier avec des pincettes, puisqu'il n'a rien à voir avec un surhomme qui serait un surhomme physique. Hein. La volonté de puissance, la mort de Dieu, le crépuscule des idoles. Nietzsche voulait faire de la philosophie à coups de marteau. Vous voyez, ça témoigne d'une agressivité, d'une contestation violente qui s'est nichée au cœur même de la pensée. La pensée se fait pulsion avec Nietzsche. Hein. Voilà. Donc, il surinvestit la pensée, il la sacralise, il la fétichise. Voilà, bon, c'est la philosophie tragique de Nietzsche avec des aspirations solaires d'un côté et ses abîmes. Nietzsche, c'est cela. Il a un côté un peu potache, grandiose, qui fait que même Si ça peut paraître inquiétant ou négatif, c'est quand même un philosophe qui nous fascine à l'adolescence, quand on a précisément traversé, on est traversé par des tensions, des conflits, une recherche d'identité.
Alors, on n'a plus de temps, Jean-Louis Siani, mais rapidement, que devient Nietzsche après la mort de sa mère en deux, trois mots ?
Après la mort de sa mère, bien, c'est la sœur qui prend le relais. Elle est possessive et malheureusement, elle essaie de reprendre l'héritage de Nietzsche, qui n'a pas écrit qui n'a pas publié un seul bouquin, qui n'a pas eu un seul acheteur pendant sa vie. Et malheureusement, comme elle s'acoquine avec des nazis, bon, il va y avoir des tâches et un positionnement. Elle reçoit Hitler en personne. Voilà, donc ça devient dramatique, l'usage et la manipulation éhontée de la sœur. Mais bon, quand tout cela arrive, il y a longtemps que Nietzsche est parti au coup d'un cheval.
Nous aussi, on va s'arrêter là. Votre émission La Pause Philo, c'est terminé. Merci beaucoup Jean-Louis Siani, philosophe. Merci. Et essayiste, auteur notamment de La Mère et le Philosophe aux éditions Le Bord de l'eau. Très belle journée sur Radio Aviva.
La Pause Philo.
La Pause Philo.
Un temps pour l'essentiel.